Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge littéralement dans la chimie du sol.
Bonjour. Et oui, on a un sujet particulièrement pointu aujourd'hui.
Ouais, on a épluché un dossier vraiment technique tiré du site spécialisé Agrinutriments. Et notre mission, c'est de décortiquer la mécanique d'application au sol d'un oligo-élément qui est, disons-le, redoutable de complexité, le bore.
C'est le mot. Redoutable.
Parce que on a l'habitude sur une exploitation de manipuler de l'azote ou du potassium par centaines de kilos à l'hectare. Mais là, on entre dans la dentelle agronomique.
Tout à fait. On parle de doses infimes.
Voilà. Et la marge d'erreur est quasi inexistante. D'ailleurs, la publication d'Agrinutriments met d'emblée le doigt sur ce qu'ils appellent le paradoxe du bore, ou le syndrome du micronutriment-piège.
Ouais, c'est une excellente expression.
Les cultures en exigent vraiment une fraction minime, mais la moindre rupture d'approvisionnement se paie cash sur le rendement, avec des trucs dramatiques comme des blocages de croissance ou des défauts de noison.
La ligne de crête est très étroite en fait. Un léger déficit va provoquer une nécrose des méristèmes apicaux et à l'inverse, un apport à peine trop généreux fait basculer la parcelle dans la toxicité.
Avec des chloroses sévères sur les feuilles, c'est ça?
Exactement. Et pour maîtriser cette marge de manœuvre qui est vraiment millimétrée, l'article insiste sur le fait qu'il faut se replonger dans la physiologie végétale pure.
C'est-à-dire?
Contrairement à des éléments très mobiles comme l'azote, le bore a une dynamique de transport extrêmement rigide dans la plante.
Ah ouais.
Il pénètre dans le système racinaire de manière passive. Il est littéralement entraîné par le flux d'eau qui est lié à la transpiration de la plante.
Donc il monte avec la sève brute, le xylème.
C'est ça. Il emprunte le xylème pour monter vers les parties aériennes, mais le blocage physiologique majeur, c'est qu'une fois qu'il est fixé dans les tissus cellulaires des feuilles matures, il y reste définitivement emprisonné.
Il ne redescend pas via le phloème, du coup.
Jamais. Et c'est ce qui explique cette incapacité chronique de la culture à remobiliser ses propres réserves internes.
Donc, en gros, une vieille feuille qui est gorgée de bore est incapable d'en céder la moindre fraction pour alimenter un nouvel organe en formation ou un bourgeon.
Rien du tout. Les nouvelles pousses dépendent à 100% de ce que le système racinaire parvient à extraire de la solution du sol en temps réel.
C'est dingue, ça. Et c'est pour ça que les symptômes visuels de carence frappent toujours les jeunes feuilles en premier.
Absolument! La pourriture du cœur sur la betterave, les déformations sur le colza, ça touche systématiquement les bourgeons terminaux. La construction des parois pectocellulosiques s'arrête net s'il manque ce flux continu depuis la rhizosphère.
D'accord. Mais du coup, face à cette immobilité dans le phloème, ça pose un sacré défi pour corriger le tir sur le terrain.
Un défi majeur. Et c'est là que l'article d'Agrinutriments recadre un peu les pratiques.
Ouais, parce que le réflexe habituel face à une carence, c'est de sortir le pulvérisateur pour un passage en foliaire. C'est courant, alors pourquoi s'embêter avec le sol?
L'auteur est très ferme là-dessus. La pulvérisation foliaire, ça corrige ponctuellement les feuilles qui sont touchées au moment T, mais ça ne garantit en rien l'alimentation des tissus qui vont émerger la semaine suivante.
A vu que ça ne redescend pas vers les futures pousses.
Voilà. C'est un traitement de surface, un effet coup de fouet qui est très éphémère et qui masque le problème de fond sans le résoudre durablement.
Surtout pendant les phases de croissance végétative explosive au printemps, non?
Exactement. Ou pendant la fenêtre critique de la floraison. À ce moment-là, la demande en bore pour la germination du tube pollinique grimpe en flèche.
Donc, recharger le profil de sol, c'est la seule véritable assurance tout risque.
C'est la seule façon d'assurer un flux continu. L'apport au sol agit comme une assurance d'alimentation régulière pour les techniciens et les agriculteurs.
Et l'article liste d'ailleurs de manière très dynamique les scénarios où cet apport au sol prend tout son sens. Il y a quatre situations agronomiques précises.
Oui, on a des profils très clairs.
La première, c'est l'évidence, les parcelles où l'analyse de terre confirme une carence réelle et historique.
Logique, on corrige ce qui manque.
La deuxième situation, c'est quand on implante des cultures structurellement hypersensibles.
Oui, le colza, la betterave sucrière, la luzerne, le tournesol ou les brassicacées maraîchères.
Pourquoi elles sont si sensibles, celles-là? Parce que leurs parois cellulaires requièrent énormément de bore pour réticuler la pectine. Leurs exigences sont folles par rapport à un blé, par exemple.
Ok. Ensuite, la troisième situation, on passe sur les types de sols. Les terres sableuses ou très pauvres en matière organique. Là, on est sur un problème de mécanique physique. Dans les terres sableuses ou filtrantes, le bore naturel se trouve généralement sous forme d'acide borique. C'est une molécule neutre.
Donc elle ne se fixe pas sur le complexe argilo-humique.
C'est ça. Le risque ici est purement mécanique, c'est le lessivage. À la moindre pluviométrie excédentaire en hiver ou sous une grosse irrigation, le bore glisse sous l'horizon racinaire. Il fuit avec l'eau.
Donc le stock est chroniquement instable. Et la quatrième situation, c'est l'inverse, presque. c'est les terres calcaires, ou les parcelles récemment chaulées.
La dynamique s'inverse totalement, oui. L'auteur met vraiment en garde contre l'antagonisme calcium-bore.
Qu'est-ce qui se passe chimiquement?
Quand la CEC, la capacité d'échange cationique, sature en ion calcium et que le pH grimpe, on observe un phénomène d'adsorption massif.
Donc le bore est bloqué?
Il est physiquement là, dans l'horizon de surface, mais il est séquestré chimiquement par les particules de sol et les carbonates. Les racines ont beau pomper, la solution du sol est vide de bore assimilable.
C'est traître, parce qu'une analyse de sol classique pourrait te dire qu'il y a du bore.
C'est un blocage induit très piégeux.
Et justement, pour déjouer tous ces pièges, l'article propose un décryptage de l'arsenal technique. Il passe au banc d'essai 5 formes de bore.
C'est indispensable parce que choisir la mauvaise forme chimique, c'est littéralement jeter son budget fertilisation par les fenêtres.
Voire brûler sa culture.
Aussi. Tout se joue sur la cinétique de libération, la solubilité et la résistance au lessivage.
Alors, passons-les en revue. La première forme, c'est la colémanite granulée, titrée autour de 10% de bore. L'article la présente un peu comme la solution puriste.
C'est un borate naturel de calcium. Donc une base calcique, ça implique une solubilité particulièrement lente. La matrice se dégrade très progressivement dans l'humidité du sol.
Donc c'est parfait pour une stratégie de bore de fond.
Exactement. En positionnant 30 à 40 kg de produits bruts par hectare, on installe un réservoir qui va libérer ses unités au compte-gouttes sur plusieurs mois. L'avantage magistral sur des sols légers, c'est qu'il n'y a quasi aucun risque de lessivage brutal.
Et la marge de sécurité face à la toxicité est bonne, mais j'imagine qu'il y a un inconvénient.
Le pendant de cette inertie, c'est que c'est totalement inadapté aux urgences. Si on intervient en rattrapage de fin d'hiver sur un colza qui redémarre vite, la colémanite ne libérera pas assez de bore dans la courte fenêtre où la culture en a désespérément besoin.
C'est logique. C'est fait pour le long terme, sur une rotation.
C'est ça. Ça manque de réactivité face à un stress immédiat.
Alors, si on cherche un compromis idéal, l'article pointe vers la deuxième option. Le bore granulé sodique type granobore à 15% de bore.
Là, on passe d'une base calcique à une base sodique. Ça change drastiquement la donne au niveau de la solubilité. Le produit se dissout beaucoup plus rapidement dès qu'il capte l'humidité du sol.
Donc on a une disponibilité importante pour les racines en quelques jours.
Oui, tout en gardant une libération lissée sur plusieurs semaines. C'est l'équilibre parfait pour sécuriser la croissance rapide d'une culture de printemps.
Et l'article soulève aussi un gros avantage pratique.
La granulométrie. Avec des doses de 10 à 17 kg par hectare, ça permet un mélange mécanique très facile avec d'autres engrais solides.
Ah oui, en pré-semis avec du NPK ou de la kisérite. Ça évite de faire un passage juste pour 15 kg.
Et surtout, ça dilue la quantité de bore dans un volume plus important, ce qui améliore vachement la répartition spatiale au sol. Attention par contre sur les sols très sableux sous forte pluie.
Pourquoi ?
Comme c'est plus soluble, c'est nettement plus vulnérable à la lixiviation que la colémanite.
D'accord. Ce qui nous amène à la troisième option qui pousse la solubilité à son paroxysme, l'acide borique. À 17,4% de bore, c'est la forme la plus économique et ultra rapide.
Foudroyante même en termes d'assimilabilité. Sous forme de poudre cristalline, il se dissout instantanément dans la solution du sol.
Donc si la parcelle hurle sa faim, c'est la réponse la plus agressive.
Oui, mais le revers de la médaille est brutal. C'est totalement vulnérable au lessivage. Sur un sol léger, une pluie de 30 mm et toute la dose part dans les profondeurs, loin des radicelles.
Et on le met comment? Parce que l'auteur donne une astuce de terrain géniale pour valoriser ce produit bon marché, sans qu'il se fasse lessiver.
L'astuce, c'est l'incorporation directe dans les effluents organiques. En mélangeant environ 10 à 12 kg d'acide borique par hectare dans une tonne à lisier ou du digestat de méthanisation.
Ah oui, ou du compost. Et ça fait quoi chimiquement?
La matière organique de l'effluent vient tamponner la solubilité foudroyante de l'acide borique. Les complexes organiques forment une matrice qui retient l'oligo-élément.
Ça freine sa descente vers les nappes en fait.
Exactement, tout en le maintenant hautement biodisponible pour les racines. C'est une synergie exceptionnelle pour recharger le sol de manière homogène.
Super astuce pour les agriculteurs. Passons à la quatrième forme, le bore éthanolamine. C'est liquide autour de 11% de bore, on le connaît surtout pour le foliaire, non?
Oui, il est omniprésent dans les catalogues foliaires parce que sa formulation est très douce pour les tissus des feuilles.
Mais l'auteur se demande quelle est son utilité au sol.
C'est une interrogation très pertinente. Utiliser une molécule complexée par l'éthanolamine pour recharger durablement l'horizon racinaire, ça défie un peu la logique agronomique de long terme.
Parce qu'il est très lessivable.
Complètement. C'est un produit pensé pour une assimilation immédiate. C'est pratique pour l'intégrer dans des réseaux de fertigation en goutte à goutte, en arboriculture par exemple.
Mais pour reconstituer un stock tampon dans une terre de grande culture,
ça n'a pas de sens économique ni agronomique. Le complexe organique n'empêche pas le lessivage dans la terre, il va traverser le profil aussi vite qu'une forme purement soluble. On n'aura jamais cet effet de libération prolongée qu'on cherche au sol.
C'est très clair. Et enfin, on arrive à la cinquième solution, et là, j'ai eu un vrai aha moment en lisant l'article. C'est le soufre élémentaire enrichi en bore à 2%.
C'est probablement l'innovation la plus pointue de ce banc d'essai. On est sur un co-granulé qui exploite une convergence physiologique très forte.
C'est-à-dire ?
Les cultures exigeantes en bore, comme les crucifères, sont simultanément de très grandes consommatrices de soufre. Mais la vraie prouesse, c'est la logique d'anticipation biologique.
Vas-y, explique. Parce que la mécanique est brillante.
Le soufre, sous sa forme élémentaire, est totalement inerte pour les plantes. Il doit impérativement subir une oxydation par les bactéries du sol, du genre Thiobacillus, pour se transformer en ion sulfate assimilable.
Et ces bactéries, elles sont thermodépendantes ?
Voilà. Elles hibernent en sol froid et leur activité explose quand la terre se réchauffe et s'humidifie au printemps. En enfermant le bore dans cette matrice de soufre, sa libération devient calquée sur ce réveil biologique.
Le bore est emprisonné dans un coffre-fort thermique naturel.
Exactement. Et la synchronisation frôle la perfection. Quand la température monte, les besoins de la plante s'envolent pour l'élongation de la tige, et en même temps, les bactéries grignotent le granule. Ça libère le bore exactement au rythme de l'absorption racinaire.
C'est génial. Ça annule le risque de toxicité soudaine et ça protège du lessivage hivernal. L'article donne quoi comme dose pour ça, Evelyne ?
Entre 50 et 100 kg par hectare de produits commerciaux. C'est très efficace en grande culture, mais aussi de plus en plus en viticulture ou en verger pour sécuriser la noison sans créer de déséquilibre.
Bon, on a vu les formes. Maintenant, l'article rappelle une règle d'or pour réussir son apport en bore. Le pilotage à l'aveugle est interdit.
C'est de la roulette russe agronomique, sinon.
Il faut s'appuyer sur l'analyse de terre, et spécifiquement le bore extractible à l'eau chaude.
Oui, cette méthode isole la fraction du bore qui est réellement disponible pour la solution du sol, en excluant la part qui est complètement minéralisée et bloquée dans la roche-mère.
Et quels sont les repères chiffrés que les techniciens doivent avoir en tête ?
C'est très précis. En dessous de 0,8 ppm, partie par million, la parcelle est en zone rouge. L'effondrement du rendement menace si on ne corrige pas.
La carence est imminente. Et la zone de confort ?
La zone de confort agronomique s'établit entre 1 et 1,5 ppm. C'est là que la culture n'aura aucun frein physiologique.
Et l'objectif global est d'apporter 1 à 2 kg de bore élémentaire par hectare. Mais il ne faut pas dépasser un certain seuil.
Surtout pas. La limite de tolérance absolue est à 3 ppm. Au-delà, on plonge la rhizosphère dans la toxicité avérée avec des nécroses.
Et ça nous amène au point crucial de la qualité de l'épandage. Parce que ramener 1 kg d'un élément pur sur les 10 000 m² d'un hectare...
C'est le défi ultime. Les racines ont une tolérance zéro face aux hétérogénéités de répartition.
Le bore déteste les zones de concentration.
Un andin légèrement surdosé derrière un semoir ou un mauvais recouvrement des disques de l'épandeur, ça crée des micro-zones où on dépasse allègrement les fameux 3 ppm en local. Les radicelles qui traversent ça grillent instantanément.
Donc, la balistique de l'engrais solide est le maillon faible.
Souvent, oui. Un micro-granulé très dense jeté à 36 mètres n'aura pas le même comportement qu'un granulé duré. L'auteur recommande des apports réguliers en plein avec une légère incorporation mécanique superficielle.
Un petit coup de herse rotatif, par exemple.
Oui, dans les premiers centimètres. Ça permet de dilater spatialement le produit dans le volume de terre, ça dilue le risque de point chaud toxique et ça place le bord dans l'horizon humide. C'est la clé de la sécurité.
Ok, c'est l'heure de la synthèse. Le constat final de cette publication est sans appel. Il n'y a pas de source de bore parfaite dans l'absolu.
Non, c'est une équation à multiples inconnues.
La réussite agronomique repose vraiment sur un triptyque. Hein. Le bon produit à la bonne dose au bon moment. Le tout dicté par le type de sol, la pluviométrie et les exigences de la culture. C'est la frontière entre une fertilisation maîtrisée et une loterie.
Je rajouterai même une variable qui va devenir centrale pour l'avenir.
Laquelle ?
L'eau. Toute cette mécanique présuppose que l'eau est disponible dans le profil de sol.
Vu que le bore est absorbé en même temps que l'eau par les racines.
Exactement. Son assimilation dépend exclusivement de l'humidité et du flux de transpiration. Alors comment ces stratégies d'apport au sol vont-elles résister au dérèglement climatique?
Ah oui, avec les sécheresses prolongées.
Les sécheresses printanières extrêmes coupent net la transpiration des cultures au moment même où les besoins explosent. Et derrière, on a des pluies diluviennes intenses qui lessivent tout en plein hiver.
C'est un vrai casse-tête. Les techniciens et les agriculteurs vont devoir repenser entièrement le timing de ces apports au sol.
C'est la grande question, est-ce qu'on ne va pas devoir réinventer l'intégralité du calendrier pour s'adapter à une ressource en eau devenue totalement imprévisible ?
Une réflexion fascinante, laissée à l'esprit critique de ceux qui nous écoutent pour anticiper l'agronomie de demain. Merci pour ces explications éclairantes.
Avec plaisir.
Et merci à tous d'avoir suivi cette analyse technique. À très bientôt pour une nouvelle plongée agronomique.